Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne d'Eau de Radio. Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne. Et nous sommes présents, toute la rédaction des informations locales et culturelles est présente comme chaque jour du lundi au vendredi. Midi pour le direct, 15h et 18h pour les rediffusions. 91.3 FM pour nous suivre dans toute la Gironde et grâce au DAB+ dans toute la métropole bordelaise. Vous pouvez également nous suivre via notre site eauderadio.fr partout sur le globe avec des infos complémentaires à notre journal, les reportages de la rédaction et c'est sur notre site que vous pouvez retrouver les replays de toutes nos émissions. Un journal exceptionnel aujourd'hui sur Eau de Radio et pour cause. La station fête aujourd'hui ses 29 ans. 29 ans d'ondes, de partage et de proximité en Gironde, sur la métropole bordelaise, mais aussi sur notre chère rive droite. Un numéro forcément un peu spécial que vous pourrez d'ailleurs retrouver en rediffusion ce lundi 13 et mardi 14 en raison du pont de la fête nationale. Pas de flash info classique ce midi, mais une pensée pour cette belle aventure qui a débuté en 1997, de nos tout premiers studios à Lormont jusqu'à notre installation ici à Senon, il y a tout juste 20 ans, en 2006. Eau de Radio s'est construite au quotidien grâce à vous, auditrices et auditeurs, ainsi qu'au tissu associatif local que nous sommes si fiers de mettre en avant. Alors, joyeux 29 ans, Eau de Radio! Et toute l'équipe vous remercie évidemment pour votre fidélité. Allez, pour la partie invitée, nous recevons Mathis et Inès qui sont venus nous parler de la Fresh Touch qui se déroulera à Farc-Saint-Hilaire du 16 au 18 juillet. Puis à 12h30, vous retrouverez comme d'habitude votre magazine juridique et social Défendez-vous, présenté par Maître Paul Cessot qui viendra pour la dernière fois de l'été. Il prendra une pause festival et reviendra à la rentrée. Maître Paul Cessot qui va nous parler d'un sujet actualité concernant les vacances avec des enfants. Jusque-là, c'est plutôt joyeux, mais bien malheureusement, des lieux qui n'acceptent pas les enfants pendant les vacances. Paul nous en dira plus à 12h30. Mais d'abord, on retrouve Mathis et Inès donc, qui sont venus nous parler de la Fresh Touch. Tout va être détaillé dans cette interview réalisée par Joël, que j'embrasse et qui sera d'ailleurs de retour aux commandes de ce journal, mercredi 15 juillet. Allez, on écoute Mathis et Inès pour la Fresh Touch.
Et oui, ça met de la bonne ambiance, de la bonne humeur. Voilà, rien qu'au niveau du générique. Mathis, Inès, bonjour, bienvenue à tous les deux.
Bonjour, merci. Bonjour.
Voilà, donc on va parler du Fresh Touch édition 2026, 16 au 18 juillet. Donc toujours domaine de la fraise à Farc-Saint-Hilaire. Là, on aura quelques musiques. On va voir comment on s'organise sur, bien sûr, sur l'interview pour respecter le timing. Peut-être juste avant qu'on commence à présenter la programmation. Donc vous êtes combien à travailler sur le festival? Alors je fais un petit coucou à Bruno, bien sûr, Bruno Tauzin. Mais là, l'équipe, parce que chaque fois quand je vois les têtes d'affiche, voilà, il y a une super programmation. Donc, vous êtes combien à travailler sur ce bel événement?
Bah alors, on commence à être une petite armée. C'est vrai chaque année, on grandit dans la team. Alors là, à l'année, à travailler à l'année dessus, on est beaucoup moins évidemment. On est peut-être une quinzaine. Voilà.
Mais il faut ça, hein, entre les prises de contact pour les groupes, essayer de défricher un peu tout ça, donc une quinzaine pour la préparation, et puis
les jours J, on peut monter jusqu'à, facile, 80-100 bénévoles. Quoi.
Bon, donc là, c'est quoi? On fait appel aux proches, les amis, la famille. Ben, après, il faut ça, hein, pour un événement, entre la logistique, la communication.
C'est ça qui a montré que l'événement a grandi ces derniers temps, c'est qu'on est passé juste de la famille d'un tel, l'ami d'un tel. Maintenant, on a des gens qui viennent qui connaissent personne en fait sur le site et qui se proposent. Sur notre site, il y a une rubrique bénévolat. Et donc, on commence à.
On cherche encore d'ailleurs des bénévoles parce que autant on est.
Oui, bien sûr, tous les jours.
Parce que ce qui est sympa, c'est surtout quand on est jeune, de venir, certes bénévolement, mais c'est un engagement. Et puis on apprend plein de choses, hein. On découvre les coulisses. Après, c'est un petit peu de travail quand même. Mais oui. Quand il y a une équipe, c'est fait avec le sourire, l'énergie. Donc si on peut encore s'inscrire, parce que nous, on croit souvent des jeunes sur l'été qui disent « je ne sais pas quoi faire », mais c'est un bel exemple, hein, de participer, de venir quand même... impliqué volontaire, hein, c'est pas juste. Donc ça, si c'est encore possible, donc ça, on peut avoir les infos via le site internet.
Pour le bénévolat, frestoche.com, il y a une rubrique devenir bénévole et c'est un formulaire à remplir.
Combien de jours de fête? 16, 17, 18, 3 jours de fête.
Exactement, oui.
Bon, comment on peut commencer à décliner? Parce que chaque soirée a sa saveur, bien sûr, sa singularité. Après, si on a l'esprit festival, faut être présent sur les 3 soirs. Vous pouvez décliner jour par jour et puis on n'hésitera pas peut-être à associer avec une pause musicale.
Ça commence. Le jeudi 16, donc à 18h. Donc là, le jeudi 16, toujours notre soirée un peu de lancement. Donc on travaille toujours avec le Carré Crew, donc un collectif de DJ de Langon qui va nous animer une soirée un peu électronique.
Mais quand même ouverte à tous. Hein.
Oui, quand même ouverte à tous, tout à fait, à prix libre, comme chaque soir du festival.
Très bien.
Et cette année aussi, on travaille avec l'association Kino Session, donc une association de courts-métrages sur Bordeaux. De professionnels du cinéma en fait qui se sont ont créé leur petite association, enfin maintenant plutôt très grosse, et du coup qui va nous faire une diffusion aussi en collaboration avec l'association Le Gyrophare, l'association LGBT+ de Bordeaux, les organisateurs de la Pride. Ensuite on enchaîne sur le vendredi soir, vendredi c'est la grosse soirée festive, donc on commence avec les spectacles du Centre Aéré, puisque notre festival est associé à l'accueil de loisirs du domaine.
Oui, c'est l'UFCV, on rappelle, qui organise, donc il y a des fonctions, bien sûr, qui organise des événements à l'instar de celui-ci, mais bon, c'est bien qu'il y ait des liens, qu'il y ait un ancrage local.
En fait, dans la dynamique de l'éducation populaire que porte notre festival, on veut en fait mélanger les grosses têtes d'affiche avec les petits spectacles du Centre Aéré.
Mais bien sûr, mais c'est sympa, c'est une belle dynamique, oui.
Voilà. Donc on commence avec ça, puis on aura le groupe qui n'est pas annoncé, mais suite à un désistement, c'est ceux-là qui ont fini par dans la line-up, donc le groupe Astroblème, qui est un groupe de jeunes du coin. Puis on enchaînera avec les Hurlements de Léo, du coup, en tête d'affiche. Et après, un petit notre coup de cœur du tremplin, Sine, un rappeur toulousain, qui fera un petit show de changement de plateau. Puis après, nous accueillerons Zarza, du coup, groupe de rock, rock balkan un petit peu. Et puis nous terminerons la soirée avec Opus Temple, donc un groupe carignanais, c'est assez inclassable comme musique, c'est de l'électro avec des violons, enfin bon. Et donc samedi.
Samedi, regardez Mathis, je vous propose, parce que vous êtes en énergie, mais je vais juste vous couper. On va peut-être écouter un des groupes qui va se produire vendredi, si vous voulez bien. Puis comme ça, je vous laisse le temps, si ça vous convient, parce que comme ça, ça permet d'écouter certains groupes. Alors sur la soirée de vendredi, là, je ne sais pas si vous avez pu échanger avec Nico pour voir, parce que là, ça pourrait, pourquoi pas, lui demander Léo, comme vous voulez. Donc là, j'arrive pas à lire, c'est tout petit, n'hésitez pas à me... Ah oui, s'il y a HK, mais ça c'est le samedi à HK. Voilà, donc allez, on va écouter, j'adore... allez, on va écouter les Hurlements de Léo, ça vous convient Mathis et Inès? C'est une belle programmation. Hein. Voilà, et après on revient en plateau pour parler de la soirée de samedi, puis voilà, vous nous donnerez plein d'autres infos concernant le festival. Allez, et les Hurlements de Léo avant leur venue, donc le 17 juillet, je me trompe. On peut pas.
Exactement.
Voilà, au festival Frestauch à Fargues-Saint-Hilaire. Allez, les Hurlements de Léo, et on revient en plateau avec Mathis et Inès.
Y'a rien à faire, tu m'as piqué. que du haut de tes deux pieds, au plafond tu m'as fait grimper. Ma chérie, on a enfin quitté Paris. Je n'habite plus seul avec maman dans son petit appartement. Je mange plus que la tour.
Voilà, les romans de Léo sur Eau de Radio. Voilà, on est toujours en direct, c'est notre magazine culturel du jeudi 2 juillet, toujours avec Mathis et Inès en direct, voilà, pour parler de ce festival Festhouse, 16 au 18 juillet. Alors Mathis, je crois qu'on s'était arrêté à vendredi, et là samedi, voilà, il y a une belle soirée, et ce que vous commenciez à dire, hein, je vous ai coupé dans l'élan pour avoir le temps, donc ça commence dès l'après-midi en fait. Hein. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dès le samedi après-midi à Farc Saint-Hilaire?
Alors le samedi après-midi, c'est un peu spécifique. Alors c'est nouveau depuis l'année dernière, c'est un projet porté donc grâce aussi au domaine et à l'UFCV par ma collègue Aurore que je salue. Donc c'est un projet autour de l'inclusion du handicap. En fait, on a toujours fait des après-midi famille autour de spectacles d'art de rue, et là on a mixé en fait famille et inclusion du handicap. Et quand je dis inclusion du handicap, c'est d'autant des publics mais aussi des artistes. Donc c'est-à-dire que sur la programmation, déjà on va retrouver tout un tas d'associations qui viennent présenter leur travail, voilà, donc soit des IME, associations de chiens d'aveugles, associations de handisport, etc. Donc tous ces gens-là qui viennent nous présenter et faire des petites animations le long de la journée. Et on a deux spectacles de prévus. Donc premièrement la compagnie Soria, donc spectacle des scènes d'été, un spectacle autour de la fraternité et de l'autisme. Et deuxième spectacle donc fait par le foyer Maritalé, un spectacle donc de danse et de chant, donc porté par des gens en situation de handicap.
Et c'est bien de le mettre à l'honneur, voilà, puis qu'ils se retrouvent dans un beau festival, c'est bien, parce que là vous me citez certaines assos, nous on a des émissions, nous sur de radio, portées par des personnes, on les salue, hein, Alexis et Guy. Donc ça c'est vrai qu'on parle souvent d'inclusion, inclusivité, etc. Et là ça en est un bel exemple avec un plateau artistique et large qui plus est. Hein.
C'est comme j'ai beaucoup dit à beaucoup de médias, en fait la thématique du handicap et de la culture, c'est quelque chose en fait qui est assez occulté, c'est-à-dire que
la médiation culturelle... Le plus discriminé, hein, les personnes, voilà, et que partout on veut parler d'inclusif, donc ça c'est... voilà, pardon de vous avoir coupé, mais c'est vrai que ça me... Là, on se remémore l'événement d'hier. Donc ça c'est... Maintenant, on a toutes les infos, hein, via le site internet, etc.
Oui, oui, alors bon, sur le...
Je me doutais de la réponse. Mais...
Sur le samedi après-midi, on est, vu qu'on a un peu bouclé les choses petit à petit, on a moins d'informations, c'est oui, plus sur les programmations.
Voilà, c'est pour ça que c'est important que vous le précisiez, oui. Ça, Mathis. Donc Inès, la soirée, parce que là, Mathis nous a laissé en fin d'après-midi, oui. Donc en soirée, là également, belle programmation. Hein.
C'est ça, exactement. Donc la soirée commence par Andri, donc c'est la vainqueur du tremplin, qui s'est déroulé en avril. Ensuite, on a la tête d'affiche HK, Et enfin, pour finir, on a Zoko Baya et quelques DJ sets vers la fin de soirée pour bien terminer la soirée dans la bonne ambiance.
Zoko Baya, d'ailleurs, Mathis, on peut dire quelques mots sur... Ben ça, c'est une belle aventure. Hein. Vous les avez permis de jouer sur une des éditions précédentes. Voilà, il y a déjà un lien fort. Et ça permet de voir des groupes comme ceux-là qui évoluent. Ils font beaucoup de scènes. Ils ont une gentillesse, une énergie. Voilà, mais je crois qu'il y a une petite anecdote. Hein.
Oui, non, c'est juste que nous, on a fait partie des groupes, enfin des festivals qui avons essayé de les porter et de les suivre aussi... derrière, et au final, ça nous a permis même de reboucler sur d'autres sujets, c'est que Zoko Baya, ils ont rejoint il n'y a pas longtemps un label qui s'appelle Label Babor, donc de musique éthique et musique locale. Et c'est un label en fait, qu'on a essayé de rejoindre en voyant qu'ils en faisaient partie, et en fait aussi beaucoup de groupes qu'on avait programmés précédemment. Donc on a décidé aussi de rejoindre cette aventure et c'est, j'en profite en fait d'en parler un peu.
Mais bien sûr, mais justement.
Parce que c'est vraiment une très bonne initiative portée donc autour de la musique locale, éco-responsable. L'idée de faire un événement, c'est pas un événement où on a 50 000 personnes comme à Garo Rock. La réussite, elle est haute.
Ça, c'est un mauvais exemple.
Non, mais
cette année,
malheureusement. Non, mais là, vous l'avez dit de manière spontanée. Voilà, parce que Garo Rock, malheureusement. Voilà, mais enfin, bref. Mais c'est bien de citer parce que ça, ce sont des événements majeurs. Après, c'est une autre portée.
Oui.
Ça, je ne sais pas si au Festoche, parce que l'idée de pouvoir faire devant 100 000 personnes,
non, mais
ça serait un autre environnement. Hein.
L'idée portée par le label Babor, c'est justement que le volume de public ne détermine pas la réussite d'un événement ou autre. Hein. C'est la dynamique qu'on y crée. Les projets qu'on y agrège.
Et justement, il y a des festivals. Moi, je vois Musique à la rue à Luxeuil, ça fonctionne très bien et qui ne voudraient pas que ça prenne une autre ampleur. Alors, c'est déjà énorme quand on a la programmation. Garo Rock, bien sûr. Bon, désolé. Hein. Là, Inès, vous êtes triste. Vous aviez prévu de...
Non, pas du tout. J'avais pas prévu d'y aller, mais c'est triste pour eux, c'est sûr.
Voilà, pas cette année, malheureusement, c'est vrai qu'il y a plein de festivals qui sont annulés. Là, bon, ça, c'est lié à... notamment bien le climat, etc. Mais voilà, mais c'est bien effectivement de penser à tout ça. Hein. C'est pas juste de la diffusion. Voilà, c'est des enjeux et éthiques, solidaires. Voilà. Donc sur l'événement lui-même jusqu'à samedi sur la prog, c'est bon. Tout a été dit.
On est très bon. Et si petite précision qui va se rajouter. Alors ça, c'est toujours dans les cartons, mais peut-être que dimanche. Soir, nous ouvrirons pour une certaine finale de Coupe du Monde en diffusion ciné-planète.
Ah, donc sans négociation.
Mais
si la France est qualifiée, bien évidemment.
Ouais, mais quelle question, Inès.
Parce que
on y croit.
Donc ça, c'est encore sous réserve ou c'est en fonction de à la fois bien sûr de qui va jouer, etc.
Pense que connaissant Bruno Tosin, c'est déjà calé, ouvert, c'est non négociable. Après, on donne un petit droit de réserve si on est vraiment sur les rotules à la fin du festival. Bon.
Oui.
Bon, après, ça demande de l'énergie, bien sûr. Mais après, s'il peut y avoir un autre événement qui peut conclure, façon de parler, parce que là, la fête est avant tout musicale, mais pas que. Bon, voilà. Là, je reste sur la prog. Là, je me tourne, parce qu'on a un petit peu de temps, on va voir si on peut continuer à porter des infos. Là, oui, HK, voilà, parce que comme je disais, on a reçu des infos, et là, je dis comme ça à nos auditeurs, voilà, il y a un petit échange, mais on n'a pas eu le temps de voir le dernier mail à Mathis, mais promis, on repassera d'autres artistes. Et là, HK, voilà, je fais un coucou à Mathieu Artaud qui s'occupe de la promo. Donc là, on a 1 minute 31, j'ai pas eu le temps d'écouter. On écoute HK et puis on revient. On aura certainement d'autres infos sur le côté pratique, logistique à porter. Allez, HK, et puis on revient en plateau, toujours avec Mathis et Inès, pour parler de ce festival Freestyle du 16 au 18 juillet prochain.
Tombé plume à la main avant que le jour ne se lève. Me voilà au bord du chemin, je vous écris du bout des lèvres. J'ai le corps tout entier qui tremble, mais je ne vais pas pleurer. Car à jamais nous sommes ensemble, ils ne pourront rien y changer. Les mains dans les mains, face à face, faut-il qu'ils m'en souviennent. Sous le pont de nos bras passent nos souvenirs qui s'en reviennent. Votre sourire comme un grand feu me réchauffe le corps et l'âme. Je suis heureux car dans vos yeux je vois l'étincelle et la flamme.
Oh mon ami, prenez soin. entre les montagnes qui se dressent devant vous. Votre jeunesse qui s'éloigne et le temps qui vous met en joue. Les jours qui passent à peine effleurent tout l'amour qui coule dans nos veines.
Voilà, donc Kashka, ça s'est coupé, voilà, parce que Mathis, vous connaissez bien sûr ce titre.
Oui, oui.
Voilà, c'est un petit teaser, mais on va se rattraper. Hein, là, je fais un petit coucou à Mathieu Artois avec qui on travaille, qui nous proposait, voilà, mais c'est arrivé ce matin, donc on a pu encore le temps de traiter, de pouvoir avoir Kashka en interview. Alors Mathis, Inès, on a dit beaucoup de choses sur le festival, c'est ce qu'on pourrait dire pour compléter, parce que là, on a parlé des plateaux artistiques, mais l'accueil, la bienveillance, légendaire, donc restauration, buvette sur place, certainement des stands d'infos, village associatif.
Oui, alors cette année, on a même fait venir quelques artistes graphiques, en fait, qui vont proposer des petites animations. Je sais qu'on a, par exemple, on a un pyrograveur, une dessinatrice, un photographe animal.
Donc pendant les soirées ou
ouais, pendant
en
les soirées,
il
y aura des petits stands ici et là. Voilà, une tatoueuse aussi. Le tout, donc soit gratuit, soit au prix maximum social, on va dire. Ça, c'est toujours dans notre dynamique. On n'accepte pas trop la marchandisation sur notre événement. Voilà, alors si autre chose que on pourrait promouvoir, et je pense que c'est important, ça s'est confirmé dès ce matin, donc là c'est du tout neuf.
Là c'est bon, hein. Là je vois que vous regardez vers Inès, l'équipe.
Là c'est
alors.
Du tout nouveau. C'est donc, on a rejoint le dispositif de la nouvelle Aquitaine Covoit Modalis, donc en fait qui est un dispositif de covoiturage mis en place par ben voilà, le réseau Modalis. Donc c'est-à-dire que pour des soucis un peu éco-responsables, mais aussi de praticité, puisqu'on est quand même un événement qui évolue loin du train, loin du bus, etc. Donc vous pouvez essayer de rejoindre notre communauté. Donc Frestoche, vous tapez ça sur Covoit Modalis.
Ça permet de pouvoir échanger, par exemple dire, ben voilà, on est deux, on vient de telle ville, c'est ça le système.
Exactement. C'est un système de covoiturage et la région en plus le fait sans commission, donc c'est moins cher que Blablacar, évidemment.
Bon. Oula, attention. Oh, on avait
c'est
une pub Blablacar. Non, je rigole. Non, mais c'est bien de penser à ça aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait. Après, si vous voulez continuer à en parler, parce que ça nous permet d'avoir également des belles infos. Nous, on le voit hein, sur certains concerts où on incite à. Alors, quand on est en métropole bordelaise, de venir au Rocher ou à l'Arena en vélo, bon, voilà, c'est les moyens doux, alternatifs, etc. Sur le festival, qu'est-ce que vous pourriez dire pour compléter que vous n'auriez pas éventuellement dit, je ne sais pas. Après, si on a fait le tour, bien sûr. Après, on va repartager toutes ces infos, site internet, réseau.
On peut dire que le festival est ouvert à tous, aux enfants, aux parents, aux personnes âgées. Voilà, et que le prix est libre, donc chacun donne ce qu'il peut
en
et
fonction
ce qu'il
de ses moyens,
veut.
Voilà,
exactement.
Personne ne sera jugé.
Voilà, personne n'est jugé, personne ne sera mal regardé ou quoi que ce soit. Et nos bénévoles sont toujours là, toujours prêts pour vous accueillir avec le sourire, bien évidemment.
Moi je rajouterais, en guise un peu de conclusion, que ça va être vraiment des super soirées. On a réussi à faire un programme très propre, malgré le fait que, sans rentrer dans du grand militantisme, cette année a été vraiment très très dure pour la culture, très très dure pour nous aussi. On n'a pas eu toutes les subventions qu'on espérait. On a dû vraiment beaucoup travailler à respirer financièrement. Voilà. Donc heureusement que l'UFCV nous porte derrière aussi. Mais malgré tout, donc on a réussi à faire un très très beau projet avec une très très belle dynamique. C'est ce qui nous touche vraiment cette année, c'est que on en a vu beaucoup. Bon, on parlait de Garrock tout à l'heure, mais ça n'a pas été le seul. On a eu Mohamo qui a été annulé. Je crois que c'est du côté
voilà,
de la
Voilà, le Garrock, c'est pour d'autres raisons, bien sûr, mais beaucoup. Oui. On a annulé le Mohamo Festival. On avait le plaisir, on ne peut pas recevoir tout le monde non plus. On a eu le plaisir de recevoir des organisateurs. On a eu des petits lives. Ils avaient organisé, il y avait même un tremplin aussi en amont. Oui. Il y avait plein d'artistes, je crois, comme les Passants Bohème qui attendaient. Avec impatience, c'est normal quand on est artiste de pouvoir se produire dans des festivals. L'été, c'est le summum, mais c'est vrai que beaucoup ont été annulés. Voilà, ça. Et sur certains, on ne sait pas du coup si on pourra redémarrer. Voilà, c'est tout le mal qu'on souhaite au festival. Donc vous êtes porté par l'énergie, il y a quand même des partenaires qui soutiennent.
Ouais, toujours de bons partenaires, même si voilà, cette année ça a été quand même assez
donc labellisé scène d'été notamment.
Labellisé scène d'été tout à fait. Même
la communauté de communes qui soutient les coteaux bordelais.
Ouais, exactement, oui. Voilà. Et bon, on espère que le département pourra respirer financièrement pour l'année prochaine peut-être.
Là aussi c'est un autre...
Là c'est un autre sujet, mais...
Mais qui est lié, bien sûr.
Qui est tout à fait lié à voilà.
Bien sûr.
Et nous on passera ce choc-là. Mais voilà, on a une pensée quand même pour tous ceux qui n'auront pas pu le passer. Et on va travailler d'autant plus d'arrache-pied pour proposer le même format avec la même qualité l'année prochaine. Et en essayant voilà, de respirer encore plus financièrement. Mais
ça, c'est le nerf de la guerre. Hein, parce qu'après, c'est vrai que d'un point de vue éthique, qualité de programmation, mais après, il faut que le public réponde à minima présent, voilà, qu'il y ait des soutiens financiers. Ça, c'est important. La culture, c'est un bien essentiel. Voilà, mais c'est combien d'éditions, d'ailleurs, le
Là, c'est la 12e cette année.
Bon. Donc là, vous faites partie de l'équipe tout le long de l'année. Vous allez... parce que je crois que vous avez des statuts. Voilà, mais...
Un peu particulier. Alors, nous, on est en service civique. Bon, moi, depuis mars. Et
donc
Mathis,
à une fin, bien sûr, et une deadline. Voilà.
Et Mathis depuis novembre. Et moi, j'ai fait un contrat de 6 mois. En fait, c'est de 6 à 9. Et donc, mon contrat s'arrête en septembre. Donc, je vais faire toute la saison, tout cet été. Et ouais, c'est assez engageant quand même comme service civique, parce qu'on fait beaucoup de choses différentes.
Et puis c'est votre univers, parce que c'est vrai qu'en service civique, on en a pareil depuis des années, on peut avoir tout style de service civique, l'argent diplômé, certains qui ne le sont pas, mais ça permet d'avoir une expérience. Oui. Mais vous deux, c'est le champ culturel, voilà, c'est dans ce domaine que vous voulez travailler. Là, on rentre... pas dans la vie privée, mais autre. On y vient un petit peu, mais c'est important. Ça montre, voilà, dans l'organisation, qu'il y a tout type de des bénévoles. Il peut y avoir des salariés, mais c'est une belle expérience, même s'il n'est pas terminé. Il faut.
Oui.
Il y a le festival.
On en profite un maximum, oui.
Bon, c'est une belle rencontre, du beau partage. On prend l'expérience.
C'est ça, exactement. On teste plein de choses. On a beaucoup d'expérience. On apporte aussi nos connaissances. Mais voilà, c'est très
on s'enrichit
intéressant.
Tous d'ailleurs
voilà.
des liens juste après je vous redonne la même sur Mathis. Donc Inès, sans être indiscret, après le service civique vous dirigez là dans ce domaine là de l'événementiel, du culturel, ou
peut-être je vais voir peut-être faire des études assez courtes là-dedans pour essayer de continuer dans ce domaine, ou alors dans autre chose. Je suis assez
en tout cas, c'est une belle expérience. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Oui, Mathis.
Alors moi, c'est pareil, c'est un mot un peu personnel. Donc bon, je suis aussi service civique, mais c'est un peu un service civique de façade, puisque je suis sur le festival en fait depuis 5 ans. Donc cette année, ça a été juste une année.
Oui, c'est pas la première fois que venez.
Il y a
un engagement, bien
tout
sûr. Après, le but, c'est d'avoir une situation bien sûr professionnelle stable après le
exactement,
service civique.
Exactement. Et ça m'a permis cette année de découvrir plein d'autres choses en fait en étant à l'année sur le projet. Mais tout ça pour dire un mot, c'est que Inès ici. Présent, donc avec qui j'ai eu la chance d'organiser le tremplin, enfin plutôt grâce à qui j'ai eu la chance d'organiser le tremplin.
Vous avez vu, il s'est bien repris.
Ça a été,
vous avez le droit de rougir.
Non, mais c'est
un bel hommage, je rigole.
Je fais hommage en fait à ma collègue parce que en fait l'aventure ne va plus durer si longtemps maintenant, on arrive un peu au bout.
Exactement.
Et ça a été vraiment une service civique très porteuse et quelqu'un qui a vraiment beaucoup organisé les projets. Donc voilà, sans pression, j'espère qu'on vous retrouvera après en bénévole.
Bah, sûrement, oui, je reviendrai.
Bon, souvent, c'est ce qu'on pose comme question. Mais en tout cas, Mathis, Inès, là, il va nous rester une petite minute. Donc là, on va rappeler, bien sûr, Festoche 16 ou 18 juillet, on va repartager via les réseaux. Il y aura d'autres animations prévues. Alors, c'est déjà beaucoup d'énergie, d'organisation, mais est-ce qu'il peut y avoir d'autres projets menés? Parce qu'après un événement, bien sûr, c'est l'heure des bilans, il faut des installations. Aller après le dimanche, bon, place au football certainement. Et après, qu'est-ce qui est prévu du coup sur l'été voilà, il y aura d'autres événements ou
alors,
je ne sais quoi, d'autres actions. Des fois, une micro-action peut avoir son sens aussi. Je sais pas.
L'initiative du festival en tant que tel, mais du coup, j'invite les gens à se rapprocher du domaine de la fraise, voir les activités, puisqu'en fait, on est toujours en collaboration avec eux. Et donc, je sais que d'ici la fin de l'été, il peut y avoir des petits cinémas plein air, des choses organisées comme ça, qui sont en fait indirectement avec notre matériel, mais portées du coup par l'UFCV. Voilà. Nous, le festival en tant que tel, on se retrouve toujours en avril pour le tremplin. Voilà, c'est notre...
Bon, donc ça veut dire que c'est pérenne, le festival, et que vous allez continuer, même si vous aurez peut-être et certainement plus le statut de service civique. Mais bon,
exactement,
voilà.
Oui.
Et là, au travers de vos voix, on va saluer tous les bénévoles, toutes les personnes qui œuvrent dans le bon sens, parce que c'est une équipe. Hein.
Oui, oui, qu'on va retrouver très bientôt. Ça fait longtemps, on ne s'est pas vu là, d'ici 2 semaines.
Oui, et puis on rappelle qu'il y a les dates, bien sûr, 16-18 juillet, mais quand on organise un festival, eh bien, à un moment donné, voilà, il y a de la logistique, certainement du fléchage, voilà, organiser scène, stands divers et variés. En tout cas, Mathis, Inès, merci pour cette belle énergie. On salue bien sûr toutes les autres. personnes qui œuvrent voilà, à l'organisation de ce beau festival. Eh bien, j'espère vous recroiser, même que ce soit en tant que bénévole ou autre, l'an prochain pour ben, peut-être le tremplin qui a lieu, ça c'est plutôt vers le printemps, et puis le festival estival. Allez, merci à tous les deux, merci à Nicolas, et puis on continuera à en parler, bien sûr, et diffuser sur notre antenne, et là on va partager via les réseaux sociaux d'ici quelques instants. Allez, on vous laisse avec les autres programmes d'Odo Radio.
Le magazine juridique et social, défendez-vous, présenté par Maître Paul Cessot.
Bonjour, bonjour à tous, vous êtes bien sur Aude Radio 83 pour la dernière émission de cette année scolaire de votre magazine juridique et social, défendez-vous. Et c'est l'occasion d'aborder des sujets d'actualité. Une première actualité, c'est ce à quoi vous avez peut-être été confronté en préparant vos vacances pour ceux qui ont la chance de partir, ou lors de simples déplacements, dès lors que vous avez des enfants, et des enfants jeunes, ce qui est mon cas, et donc confronté à cette situation dans laquelle au final on vous refuse l'accès à certains endroits parce que vous avez des enfants. J'avais déjà fait une petite remarque lors d'une émission, je me souviens, un peu après la naissance de mes enfants, donc il y a une bonne dizaine d'années, suite à un moment où j'avais été refusé dans un restaurant, mais ce n'était pas encore à la mode, et en tout cas pas aussi décomplexé, puisque depuis ont largement fleuri ce qu'on appelle les espaces No Kids, qu'ils soient partiels ou en totalité, puisque en cherchant des lieux de villégiature pour les vacances, j'ai constaté qu'un certain nombre d'hôtels ou de résidence était interdit aux enfants dans le but, dit-on, d'assurer la tranquillité des résidents. La question se posant tout de même de la légalité de ces comportements. Et il y a peu de doute à avoir si, quant à cette légalité, si on se plaçait par exemple face à une situation dans laquelle on était dans des espaces interdits aux personnes âgées, par exemple, l'on ferait peut-être plus face à une levée de bouclier dans ce genre de situation. Alors, petit rappel de ce qu'est la loi, puisque l'on est clairement, à mon sens, reste que ce sera aux tribunaux de procéder aux qualifications, mais à mon sens, très manifestement dans le cadre d'une discrimination, non seulement interdite par la loi, mais également pénalement réprimée. Et donc l'idée sera de savoir que faire, puisque d'une manière générale, quand on y est confronté, on ne fait rien. Que faire pour que ce genre de situation cesse. Et alors c'est vrai que la discrimination dans l'émission, j'en parle régulièrement, mais j'en parle régulièrement sous l'angle droit du travail. Discrimination à l'embauche, dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, etc. Mais la discrimination les interdictions de discrimination sont prévues aussi dans le code pénal et concernent de nombreuses autres situations, par exemple dans l'accès au logement, dans l'accès aux services, Classiquement, on avait vu l'accès aux boîtes de nuit. Ça peut être l'accès au restaurant. Et au final, n'importe où, il n'y a pas de raison de distinguer sur les services concernés. Interdiction aussi concernant les ventes. Les situations d'éducation, mais également dans les activités économiques, puisque l'on verra que les discriminations sont interdites à l'égard des personnes physiques, mais également à l'égard des personnes morales. Alors au niveau des textes, on pourra se reporter aux articles 225-1 et suivants du code pénal, qui sont relativement longs, puisque... D'abord, dans le 225-1, vous avez deux alinéas, le premier qui concerne les distinctions entre personnes physiques et le second qui concerne les distinctions entre personnes morales. Donc je lui ai dit que les discriminations jouent au profit, les interdictions de discrimination sont établies au profit à la fois des personnes physiques et des personnes morales. Et donc l'on nous dit que constitue une discrimination, toute distinction opéré entre les personnes physiques, parce que là je suis sur le premier alinéa, sur le fondement, alors là on a tous les critères de tous les critères qui sont considérés comme étant des critères de discrimination interdits par la loi. On a donc l'origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l'apparence physique, la vulnérabilité particulière liée à une situation économique, le nom, le lieu de résidence, l'état de santé, la perte d'autonomie, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge, les opinions politiques, les activités syndicales, la qualité de lanceur d'alerte ou de facilitateur de lanceur d'alerte, la langue parlée, qui est en fait la capacité à s'exprimer dans... une langue autre que le français, l'ethnie, la nation, la race prétendue, la religion, et l'on nous ajoute dans les articles suivants les discriminations, constituent une discrimination, toute distinction qui est opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel ou témoigner de tels faits, ou des faits de bizutage. Donc en fait, il y a une discrimination à partir du moment où il y a une distinction qui est opérée entre des personnes physiques sur la base de ces critères, et également entre les personnes morales, et il y a une sanction pénale. Une sanction pénale qui est d'ailleurs, c'est un délit qui est puni de 3 ans d'emprisonnement, bon, c'est les peines maximales, et de 45 000 euros d'amende. Dans les cas suivants, lorsqu'il y a donc refus de fourniture d'un bien ou d'un service, donc refus de vente ou refus de rentrer dans un restaurant, refus de rentrer dans un hôtel, refus de pour un taxi de vous transporter, etc. Entrave à l'exercice normal d'une activité économique quelconque, refuser d'embaucher, à sanctionner ou licencier une personne, subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition posée sur l'un des éléments visé aux articles donc, que j'ai cités tout à l'heure, subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments qu'on vient de voir, refuse d'accepter une personne à l'un des stages. Et on nous précise que lorsque le refus de discrimination prévu au premier amant, donc le premier amant c'est refus de fourniture d'un bien ou d'un service, est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Donc on a des peines qui sont quand même relativement sévères. Et donc on voit que on ne peut pas refuser la fourniture d'un bien ou d'un service à une personne en raison de son origine, son sexe, sa situation de famille, sa grossesse, son apparence physique, sa vulnérabilité particulière liée à une situation économique, son nom, son lieu de résidence, son état de santé, sa perte d'autonomie, son handicap, ses caractéristiques génétiques, ses mœurs, son orientation sexuelle, son identité de genre, ou son âge, ses opinions politiques, activités syndicales, qualité de lanceur d'alerte, etc. Et donc, pour s'en rapporter à la situation dont je parle depuis tout à l'heure, est-il légal de refuser l'accès d'un hôtel, par exemple, à des personnes sous prétexte de leur âge, puisqu'il y a des enfants, donc, c'est une question d'âge, c'est clairement interdit par les textes et pénalement réprimé, dans la mesure où un hôtel est un lieu accueillant du public, et qu'en tout cas on cherche d'interdire l'accès, on serait même sur l'aggravation avec une peine de 5 ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende. Alors c'est bien joli, évidemment, mais si personne ne fait rien, cela ne changera pas. Alors les textes prévoient quand même un certain nombre de situations exceptionnelles dans lesquelles les dispositions pénales ne sont pas applicables, par exemple aux discriminations fondées en matière d'accès aux biens et services sur le sexe, lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, considérations liées au respect de la vie privée, de la décence, de la promotion de l'égalité des sexes, des intérêts des hommes ou des femmes. Alors il est intéressant de voir que l'article 225-3-1 du code pénal prévoit que les délits prévus par que j'ai exposé ici tout à l'heure sont constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services dans le but de démontrer l'existence du comportement discriminatoire dès lors que la preuve de ce comportement est établie, c'est-à-dire que là on fait expressément référence au cas de testing, puisque il a pu être soulevé le fait que, alors vous savez, le testing, c'est par exemple, vous arrivez avec un huissier de justice derrière vous, en boîte de nuit, avec des personnes de couleur de peau différentes, et puis vous voyez qui rentre et qui ne rentre pas. Et l'huissier derrière, ou des témoins en tout cas, font des témoignages sur ce qui a été vu ou constaté. Et donc là, est-ce que c'était une provocation à commettre l'infraction? En tout cas, la loi prévoit expressément que ces pratiques de testing, qui sont au demeurant facilitantes pour permettre de démontrer l'existence d'une situation illégale et de discrimination préexistante. Donc ces pratiques de testing sont parfaitement légales. La loi le précise de manière expresse. Alors la question d'application à notre cas, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, très clairement, on a une discrimination qui est fondée sur l'âge, donc il est parfaitement interdit pour un hôtel, par exemple, mais aussi un restaurant ou qui que ce soit d'autre, de vous refuser sous prétexte que vous avez des enfants ou sous prétexte que vous êtes un enfant, bon, sauf dans des considérations légales, par exemple, interdiction de vente d'alcool aux mineurs, là il est logique que là, c'est la loi qui est appliquée, ou lorsqu'il s'agit de protéger les mineurs. Mais au final, interdire un hôtel aux enfants ou à des personnes parce qu'elles ont des enfants, c'est comme interdire un hôtel à des personnes âgées simplement parce qu'il s'agit de personnes âgées, c'est comme interdire un hôtel à des personnes en raison de leur couleur de peau, c'est comme interdire un hôtel à des personnes en raison de leur religion réelle ou supposée. Donc, c'est parfaitement interdit. Ça me paraît très clair et il ne devrait pas y avoir de débat si tant est que celui-ci arrivait jusque devant les juridictions, ce qui a priori n'est pas encore le cas, en tout cas pas que je sache, mais je ne suis évidemment pas partout. Alors étant précisé que donc là au-delà de ce cas simple, pour revenir un petit peu quand même sur la discrimination, vous avez des cas qui sont plus compliqués. On a deux types de discrimination, on a ce qu'on appelle la discrimination directe, c'est-à-dire c'est ce qui est évident, voilà, vous voulez rentrer dans un hôtel avec des enfants, on vous dit « oh non, on ne prend pas les enfants ici », voilà, discrimination directe. Et vous avez discrimination indirecte, c'est-à-dire une personne qui prend une décision qui est en apparence neutre, mais qui pour finalité, ou en tout cas au moins pour effet, de désavantager certaines personnes par rapport à d'autres. Par exemple, un employeur qui accorde une prime uniquement aux salariés qui travaillent à temps plein, alors que vous avez 80% des salariés qui travaillent à temps partiel sont des femmes. Au final, on aboutit quand même à une discrimination indirecte en raison du sexe. À titre d'exemple. Donc on voit que là, la situation est un petit peu plus compliquée sur le raisonnement. Ce sont les conséquences pratiques qui sont regardées, qui permettent de déterminer l'existence de la discrimination. De la discrimination indirecte là. Donc il ne faut pas s'arrêter simplement à juste des cas de discrimination directe. Il y a des choses qui sont quand même plus délicates et plus fines à apprécier. Voilà, alors que faire? Bon, voilà, donc je l'ai dit trois fois, je crois qu'on va finir par répondre à la question. Donc on a déjà vu qu'il y avait des sanctions pénales qui étaient d'ailleurs relativement lourdes. Donc porter plainte, oui, ça peut être quand même une première chose, une chose à faire. Ensuite, il y a la question des preuves. Donc là, vous pouvez récupérer des preuves quand c'est écrit. Moi, je l'ai vu écrit sur le site de l'hôtel interdit aux enfants. Donc là, je crois que la preuve est quand même relativement simple à faire. pardon. Ensuite, on peut se tourner vers des associations qui vont pouvoir d'ailleurs mener des opérations de testing dans lesquels cela peut être mis en place. Et puis, vous avez aussi le défenseur des droits. Et c'est vrai qu'il y a bien longtemps que je n'ai pas fait une petite émission sur le défenseur des droits. Donc, c'est l'occasion. Le défenseur des droits résulte d'une réforme de 2008. Ça remonte déjà. Qui a procédé à au regroupement donc sous l'autorité administrative donc de ce défenseur des droits de différentes autorités administratives indépendantes antérieures qui avaient été créées au fur et à mesure du temps, le médiateur de la République qui existait depuis le début des années 70, défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité, et nous avions la ALDE, qui était la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. De sorte que ce défenseur des droits s'est retrouvé investi de la casquette de toutes ces autorités administratives indépendantes AI antérieures. La loi lui fixe différentes missions. Défendre et promouvoir l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant. Lutter contre les discriminations directes ou indirectes prohibées par la loi. Veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République, et puis d'information, de conseil et vers les autorités compétentes de toute personne qui signale une alerte. C'est une autorité qui est indépendante, qui n'est pas censée recevoir d'instructions, qui rend compte de son activité et qui a quand même un certain nombre de pouvoirs d'action, puisqu'on peut le saisir directement nous-mêmes, personne physique ou personne morale d'ailleurs, de différentes manières. Vous avez des délégués territoriaux que l'on trouve très facilement sur Internet et qui émaillent un petit peu tout le territoire, mais aussi on peut aller sur le site du défenseur des droits et on vous explique comment faire quel cas et comment faire pour les saisir. Et donc on peut le faire en ligne, donc ou se rendre sur place, enfin auprès des délégués territoriaux, puisqu'il y en a quand même beaucoup. Je crois avoir vu sur le site du défenseur des droits, voilà, qu'il y a 620 délégués sur toute la France, ce qui est donc quand même important, et ça émaille relativement bien le territoire. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est pas juste, il n'est pas là juste pour le plaisir, ou elle, puisque pour l'instant c'est une femme, enfin, bon, le défenseur des droits, Il y a une vraie activité. Qu'est-ce qui peut aboutir? Donc déjà, bon, il y a la possibilité d'aboutir à une médiation. Ça peut aboutir à des transactions. Et le défenseur des droits peut donc saisir le procureur de la République. Il peut aussi intervenir en justice, c'est-à-dire, par exemple, vous intervenez dans un dossier dans lequel vous estimez que vous êtes victime d'une discrimination, par exemple, et on peut demander au défenseur des droits d'intervenir et qu'il va pouvoir produire un mémoire. Bon, si ça l'intéresse de le faire, ce n'est pas systématique, mais pour autant, je l'ai déjà vu dans des dossiers. Et ça fait son petit effet. Donc il y a une réelle action en chiffres. Bon, je n'ai pas les chiffres là, mais en chiffres, en nombre de saisines, dans le travail effectué, mais également dans les résultats qui sont obtenus. D'où l'intérêt de cette autorité administrative indépendante. Et donc d'où l'autorité également, d'où l'intérêt également de savoir qui va être défenseur des droits, puisque, là encore, je glisse un peu sur l'actualité, puisque c'est le débat aujourd'hui. Il y a un mandat de 6 ans non renouvelable. La défenseur des droits, aujourd'hui, après Dominique Baudis, qui était entré en fonction en 2011, qui est décédé en cours de mandat, et Jacques Toubon ensuite, et la défenseur des droits est aujourd'hui Claire Hédon, avec un H, et donc elle est en poste depuis juillet 2020, de sorte que les 6 ans sont bientôt révolus, et il faut donc lui trouver un successeur ou une successeur, et donc... le chef de l'État, puisque c'est lui, a proposé la nomination d'un sénateur, François Noël Buffet, pour ne pas le citer, ce qui provoque un certain nombre de réactions au niveau des associations, puisque cette personne a eu un parcours marqué de plusieurs de positions qui... paraissent contraires aux missions qui sont dévolues aux défenseurs des droits, puisque par exemple il s'est opposé au mariage pour tous, mais est également participé à des manifestations. Manifestement, il s'est opposé à la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse et à un certain nombre de droits des personnes LGBT. Selon ce qu'on lit dans les médias, de sorte que un certain nombre de personnes se posent la question du bien fondé de la nomination de cette personne, et il est vrai que la personnalité est importante, la personnalité choisie est importante, puisqu'il s'agit d'une autorité qui est quand même constitutive d'un contre-pouvoir. Et il est toujours important que les personnes qui constituent un contre-pouvoir s'en investissent véritablement. Alors c'est vrai que ce sont toujours des empêcheurs de tourner en rond, mais bon, c'est le but des contre-pouvoirs, tout ceci s'équilibre, et c'est un équilibre délicat, et on voit que actuellement dans un certain nombre de pays les contre-pouvoirs s'affaiblissent dans toutes ces démocraties libérales qui fleurissent par-ci, par-là. Voilà, donc après, bon, je ne le connais pas personnellement. Mais il faut aussi voir, c'est vrai qu'un certain nombre de personnes, lorsqu'elles sont investies d'une mission, s'investissent à fond dans celle-ci, avec... une certaine neutralité, donc mais bon, voilà pour le défenseur des droits, et sur la question délicate du choix de cette personne. Voilà, dernier sujet d'actualité, puisque cela va bientôt être l'heure. L'Assemblée nationale est en train de voter, une forme de, une présomption d'usage légitime des armes pour les forces de l'ordre, avec le soutien du gouvernement. Mais ce n'est pas encore allé au Sénat, donc ce n'est pas encore voté. Texte de droite voté avec le gouvernement et l'extrême droite, contesté par la gauche. Le texte prévoit pour l'heure que lorsqu'ils font usage de leurs armes, les policiers, donc les gendarmes, sont présumés avoir agi dans le cadre de la loi, présomption qui peut être renversée par tous les éléments de preuve contraire, encore heureux, puisque c'est donc une présomption simple, pas une présomption irréfragable, mais voilà, quelle est la problématique sur ce genre de sujet, c'est que justement, on n'est peut-être pas dans un pays dans lequel l'on peut aujourd'hui se permettre de créer une présomption de légitime, d'usage légitime des armes par les forces de l'ordre, au regard d'une part du nombre de entre guillemets faits divers dramatiques qui impliquent les forces de l'ordre. Il paraît quand même légitime qu'à partir du moment que les forces de l'ordre, qui quand même agissent pour la protection de la population et pour la protection de la République, puissent être contrôlées. Il n'y a pas lieu d'avoir une présomption de bonne action qui va au final libérer assez vraisemblablement libérer les pensées les gestes des forces de l'ordre, alors que celles-ci, leur but est quand même, leur fonction, c'est au-delà de nous protéger, nous protéger d'elles-mêmes également, et de réfléchir avant de tirer leur arme et de tirer, de sortir leurs armes et de tirer à tout va. En pratique, on voit quand même, même sans être plongé dans le cœur des dossiers, on voit quand même dans les médias les difficultés particulières auxquelles sont confrontés les enquêteurs pour mener à bien les différentes enquêtes dans lesquelles sont impliqués des policiers sur des tirs, sur des civils. C'est déjà suffisamment difficile de faire aboutir pour X raisons, sans qu'on ait besoin de rendre encore plus difficiles les enquêtes. Donc cela me paraît, pour ce qui me concerne, pas judicieux et pas intéressant. D'une part, cela peut décomplexer l'action policière, et d'autre part, rendre encore plus difficile les nécessaires éclaircissements qu'il doit y avoir, qui doivent être faits sur chaque usage que peuvent faire les forces de l'ordre de leurs armes, afin de déterminer si l'usage est légitime ou pas. Il n'y a pas lieu qu'il y ait une présomption d'usage légitime à leur bénéfice. Les je lis dans les médias que les partisans du texte invoquent le besoin pour les forces de l'ordre de ne pas être automatiquement suspectés après une intervention impliquant l'usage d'une arme à feu. Enfin, pour ma part, il me paraîtrait quand même légitime qu'à partir du moment où il y a une utilisation d'une arme à feu, on se pose la question de savoir si cette intervention était légitime ou pas, sans qu'on remette en cause systématiquement le travail des policiers, mais juste pour vérifier que le travail a été bien fait. Mais il est normal, et là encore, c'est une question de contre-pouvoir, de pouvoir de contre-pouvoir et au final d'équilibre, il est normal que tout le monde soit contrôlé et que personne ne bénéficie, ne soit au-dessus des lois, en tout cas au-dessus de l'état de droit, et donc ne bénéficie de présomptions particulières, surtout sur des situations qui sont aussi graves. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'on est dans un pays dans lequel on répugne ou on rechigne à ce que les actions de la police soient contrôlées. Raison pour laquelle peut-être, je ne sais pas ce qu'il en est chez nos voisins européens, mais raison pour laquelle peut-être, je lis sur le site de, j'ai lu sur le site d'Amnesty International que sur les 20 dernières années, la police française est celle qui aurait, on parle des conditionnels, tué le plus de citoyens en Europe. La question étant peut-être là de savoir comment faire pour que cela n'arrive pas. Voilà, sur ce, eh bien, je vous souhaite à tous de bonnes vacances avec ou sans vos enfants. À très bientôt à la rentrée.
Eau de radio.
Eau de radio.
Fête ses 29 ans.